France Culture.
J'aime assez à dire que j'écris des livres comme on travaille la terre. C'est-à-dire que la langue, c'est du terreau, c'est du matériau verbal. Et je la fouaille.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On vit tant qu'on n'est pas mort. Aujourd'hui, dans votre book club, c'est une vieille femme qui le dit dans le roman de Camille Lévra, l'un des textes au programme de notre émission. Dans l'autre texte, celui de Daniel Bourion, on lit que les morts ne comprennent rien. Le rien les occupe totalement. Deux premiers romans qui ne sont pas exactement les premières tentatives d'écriture de leurs auteurices et qui ont en commun un certain éloignement de la ville, le poids et la proximité induits par les villages, le motif de la maison, l'exploration de différents types de liens, amicaux, fraternels, filiaux, violents. Dans les deux cas, la recherche d'une langue pour dire des vies et des histoires tue emprunte le chemin poétique. Daniel Bourion et Camille Lévra sont nos invités. Ensuite, et comme chaque mardi, on parle littérature jeunesse avec Raphaël Bott aujourd'hui, qui nous fait découvrir une romancière norvégienne parvenue avec son dernier opus à faire lâcher une console Switch. Il y a donc trouvaille. Elle nous raconte. On finira comme chaque jour par le grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Camille Lévra.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Votre livre Rouille a paru aux éditions La Veilleuse. Bonjour Daniel Bourion.
Bonjour.
Votre livre Le pays dont tu as marché la terre a paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. On commence toujours ici par faire connaissance avec nos invités en les interrogeant sur leur parcours de lecture. Est-ce qu'il y avait l'un et l'autre des livres là où vous avez grandi, Daniel Bourion ?
Très peu. Moi, je viens d'une famille ouvrière. Enfin, mon père était routier. Donc, dans la maison, enfin, il y avait beaucoup de livres parce qu'il y avait une espèce de culte du livre en tant qu'objet par lequel arrivait la connaissance. Le simple fait d'avoir des livres pour mes parents, je pense, participait de l'arrivée de la connaissance. Mm-hmm. Donc, il y en avait très peu. Et puis, peu à peu, ils ont commencé à rentrer.
D'une forme de connaissance.
Oui, oui. Ils ont commencé à arriver par des chemins pas forcément très académiques. Par le Migros. Alors Migros, je ne sais pas si ça vous
c'est
parle.
C'est quoi ?
Voilà. C'est un supermarché. Moi, je viens d'un tout petit village de 300 habitants et le petit bourg d'à côté, il y avait un supermarché, donc il y avait un rayon de livres.
Et Migros, c'est le nom du supermarché.
C'est le nom de l'enseigne. Et donc, quand j'étais sage, j'avais droit à un livre de la Bibliothèque Rose. Donc, mes premières lectures, c'est la Bibliothèque Rose, c'est Fantomette, dont j'étais évidemment éperdument amoureux. Et ensuite,
pourquoi ?
Parce que c'est une aventurière qui n'a peur de rien. Je trouve que c'était une femme très forte et mystérieuse.
Donc je pense ça, mais parce qu'en fait, il y a un très bel épisode de Hélène Frappa qui raconte sa très 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 grande aventure oui. d'enfance et d'adolescence avec Fantomette. Donc c'est beau de vous entendre l'un et l'autre parler de ça.
C'était vraiment, c'était une figure très mystérieuse. Donc je trouvais ça absolument fascinant.
Donc Bibliothèque Rocher Migros oui. quand vous êtes sage.
Après, avec l'âge, la Bibliothèque Verte, donc l'Angelot. Espion, mystérieux encore. Avec une... Alors j'y ai repensé dans le train, là, je me disais, c'était presque une figure de l'écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui. La devise de Langelot, donc, qui est agent secret, c'est solidaire mais solitaire. Donc j'aimais beaucoup ça, ouais. cette logique d'être à la fois dans un groupe et d'être seul. Et dans le train, je me suis dit, mais en fait, c'est une figure de l'écrivain. Mmh. Et puis après.
Mais du coup, ça veut dire, Daniel Bourion, que le deal entre vous et vos parents, si vous étiez sage, vous aviez un livre, c'était parce que ça vous faisait plaisir, parce que vous aviez un goût pour ça.
Ah, mais quand j'ai appris à lire, moi, les portes du paradis sont ouvertes pour moi. C'est-à-dire qu'on rentre quand même dans un monde où tout est possible et qui vous isole complètement de la réalité. Je n'avais pas du tout une réalité désagréable. Hein. J'ai eu une enfance très heureuse, mais...
Mais vous aimiez ça, quoi.
Ah, mais j'en oubliais de garder mes petits frères, quoi.
Ça peut être dangereux, éventuellement.
Ils sont toujours en vie.
Ça va,
mais voilà, j'en oubliais de garder mes petits frères. Donc ensuite, le CDI du lycée-collège. En fait, moi, ma première librairie, je l'ai vue quand je suis arrivé à l'université. C'est mm-hmm. la première fois de ma vie que je suis rentré dans une librairie avec un sentiment mitigé de...
À quel endroit, du coup ?
C'était à Metz. Mm-hmm. Librairie Géronimo. Un sentiment très particulier qui est... Mon Dieu, autant de livres sont possibles. Et
possible à lire, à écrire.
À tout. Mm-hmm. Il y a autant d'écrivains que ça, il y a autant de voix que ça, il y a autant de mots que ça. Mm. On peut les mélanger d'autant de manières que ça. Et puis, je me souviens très bien la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Pourquoi, comment tu es rentré dans cette espèce de temple ? Et puis après, ça s'est heureusement dissipé.
Et là, à voir avec quoi ?
Comment ?
Ce sentiment de qu'est-ce que tu fais là, c'était quoi ?
Ah ben, milieu populaire. Mm-hmm. Vous dites, waouh ! Il y a toujours cette drôle d'impression de ne pas être au bon endroit. Mm-hmm. Et que rien ne vous destine à arriver là, quoi. Alors, comme mon éducation est reposée beaucoup sur le travail, quand même, à force de travail, voilà, je suis quand même rentré dans une librairie, et même de deux manières, puisque maintenant j'y suis aussi physiquement comme auteur. Et en plus, je suis conservateur des bibliothèques, vous voyez, j'ai fait le triplé. Voilà,
Grande aventure avec les livres, Daniel Bourion, du coup. Jusqu'au métier que vous exercez aussi aujourd'hui,
oui,
en plus
oui,
de votre
oui,
travail
non,
d'auteur.
Mais le livre, la bibliothèque, tous ces lieux-là, c'est juste le paradis sur Terre. Je ne peux pas le dire autrement que comme ça, quoi. Donc voilà. Et puis évidemment, alors à l'université, lecture assez classique, avec des grands chocs. Claude Simon, qui m'a laissé. La Route des Flandres, ça m'a laissé par terre, quoi.
À quel âge vous découvrez La Route des Flandres ?
Très tard. Je l'ai découvert après la soutenance de ma maîtrise. Donc on était déjà très avancé. C'est un des enseignants qui était là à ma soutenance qui m'a conseillé d'aller lire La Route des Flandres.
Sur quel indice il s'est dit que ça pouvait vous plaire ? Vous savez pas ?
Je ne sais pas. Au milieu de la soutenance, il m'a dit « Vous devriez aller lire Claude Simon. » Très bien. Là, ça a vraiment été un choc énorme. Et puis, par capillarité, j'allais dire François Bon, Bergougnou, Pierre Michon, Marie-Hélène Lafon qu'on a entendu au tout début.
Oui,
voilà, ça, c'est des écritures complètement sidérantes, quoi. De mystère et de puissance, que je retrouve dans le bouquin de Laurent Mauvignier, que je suis en train de lire là. Il y a des passages, j'ai lu hier un passage...
La maison vide.
Oui, la maison vide, sur le front et les descriptions du front. On est dans des ambiances crépusculaires qui, moi, me font penser à, dans la route des Flandres, on a cette chevauchée dans la nuit sous la pluie qui me fait penser à Proust tout à la fin, quand il se promène dans Paris, tout à la fin du temps retrouvé. Que je croise avec la scène du bal, enfin, les ambiances crépusculaires, j'adore ça. Je suis pas gothique, hein, mais il y a un poids de l'humanité là, qui est là, dans une espèce de désespoir et de description désespérée de l'aboutissement d'une vie et de tout, qui me fascine complètement.
Et ça veut dire que, parce que là, en quelques secondes, vous fabriquez une sorte de carte de chapitres ou de paragraphes crépusculaires, Daniel Bourion, vous avez une lecture de cet acabit intertextuel, vraiment comme ça, en réseau.
Oui. Alors, j'ai...
Elle s'est construite, bien sûr.
Oui, oui. J'ai fait des études de littérature générale et comparée. Ce qui a rajouté une couche à mon émerveillement, puisque j'ai découvert aussi que la littérature, ce n'était pas que la littérature française. Mmh. Ouais. Et ces logiques d'intertextualité et de motifs et de thèmes qui se répondent. Donc, et puis, j'ai une tendance comme ça à aller croiser les choses, en fait. Donc, je ne peux pas rester sur
un seul motif,
non,
un seul endroit.
Voilà, je n'y arrive pas. Il y a forcément... Ça va déclencher quelque chose ailleurs. Alors, ça peut être dans la littérature, mais ça peut être dans la musique ou dans du cinéma, etc.
Donc, vous tirez une ligne, quoi.
Oui, oui. Et ça se croise, quoi que je fasse. Ce qui peut être perturbant, parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve face à une foultitude de possibilités. Donc il faut aussi, pour le coup, en revenant sur l'écriture, faut parvenir à se recentrer. Sinon, on est dans une espèce d'éparpillement permanent.
Là, vous basculez avec une casquette d'auteur.
Oui, oui, je suis revenu.
À la maison. Camille Lévra, vous grandissez dans un environnement où il y a des livres, pas de livres, un peu de livres, beaucoup de livres.
Il y a beaucoup de livres. Je viens d'une famille de profs, alors il y a des livres partout. Mais il y a que des auteurs morts. Je pense que je lis mon premier auteur vivant à 19 ans, 20 ans. Avant ça, j'ai adoré lire. Je suis une fanatique de Zola et j'aime me faire embarquer. Mais avant ça, pas de vivant.
Vous commenciez par ça. Qu'est-ce qui s'ouvre à 19 ans pour que, à la fois, vous commenciez à lire des auteurs qui sont vivants ou vivantes ? Et qu'est-ce que ça change pour vous ?
J'ai fait un stage dans une maison d'édition qui s'appelle Héros Limite, qui est pour moi une des plus belles maisons d'édition qu'on trouve en Suisse.
Qui a à voir avec Gerasim Luka ?
Oui, tout à fait. Oui, alors l'éditeur est un grand fan de Gerasim Luka, donc voilà. Et là-bas, à Aérolimite, on publie beaucoup de poésie. Et j'avais lu que de la poésie classique, et ça me parlait. Mais
vous lisiez quoi, par exemple?
Je sais même pas. Ouais. J'avais un cahier de poèmes d'Emily Brontë qui, à 14 ans, me faisait pleurer dans le tram, et c'était super. Et encore maintenant, en fait. Mais oui, là, j'ai lu des auteurs qui faisaient de la poésie concrète. Ça m'a troublée. Je sais pas trop ce que ça m'a fait, mais ça fait quelque chose de différent. Et puis, j'ai lu d'autres textes. J'ai lu des vivants. J'ai lu des auteurs autres que anglais et français. Notamment La Ravine de Sergueï Essénine, qui est... je le relis chaque année quand il commence à faire froid, donc là c'est bien.
Alors racontez-nous de quoi s'agit-il.
La Ravine, c'est le nom d'un village, ça se passe en Russie. Sergueï Essénine, c'est un poète et c'est son seul roman. Et la personne qui fait la préface, elle dit que c'est un opéra dans la forêt. Et je trouve que c'est exactement ça. C'est un roman qui est hyper silencieux et on se balade dans un village. On voit les discussions et les liens entre les personnes qui y vivent. Et c'est très simple, c'est très silencieux, c'est très engourdi. Et du coup, c'est profondément vivant. Et ça me parle beaucoup.
Et ce mot-là que vous répétez beaucoup, Camille Lévra, du vivant, est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez dans la lecture? D'être au contact de ça, ouais. Ou de cette énergie du vivant?
Oui, je pense, enfin, le lien au plus proche des gens, un lien qui me semble vrai. Moi, je viens d'un tout petit village et c'est ce genre de lien que je cherche. Un lien où on ressent vraiment les émotions des gens, où c'est pas superficiel. Enfin, moi, en tout cas, je cherche ça souvent. Et sinon, je cherche des romans qui me bouleversent, souvent qui me font mal.
Comment vous faites pour avoir un radar à roman qui vous fait mal?
Je suis libraire aussi, donc ça aide. Le Hussard sur le toit, j'avais adoré avoir la nausée tout le long de ce livre. Et là, plus récemment, Le démon de la colline au loup de Dimitri Rouchambori, qui s'était paru au Tripode. Et c'est une monstre claque, et vraiment monstre claque. Et j'ai aimé trembler en lisant ce livre. J'ai aimé avoir mal, parce que pour moi, un livre, c'est une aventure qui doit me bouleverser, sinon ça a moins d'intérêt pour moi.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'avoir mal en lisant? C'est le fait qu'à la fois, il y a de la douleur, mais qu'elle soit... Enfin, peut-être que d'ailleurs pour vous elle n'est pas amoindrie par le fait qu'elle est simplement littéraire. Peut-être que pour vous c'est la même douleur, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est une expérience de la douleur qui est un tout petit peu qui peut être tenue un tout petit peu à part.
Oui, je pense que c'est une douleur acceptable.
Ouais.
C'est une douleur qu'on peut vivre et on peut dormir derrière. Mm-hmm. Et c'est une douleur qui est sublimée. Et si on peut mélanger de la poésie et des choses qu'il faut dire mais qui font mal. Ben d'un coup, ça fait beaucoup de sens de les dire, je trouve.
Il y a quoi sur votre table de chevet en ce moment?
Il y a le dernier Jim Harrison qui vient de sortir aussi chez Aérolimite. Et puis, il y a un livre de Maurice Genevoix, donc ça date un peu, mais Rabolio, que j'ai adoré. C'est l'histoire d'un braconnier. Et on le suit dans un village, on le suit être un peu mis à banc et devoir se cacher dans la forêt. Et j'ai adoré ça. Mais j'adore les aventures où il ne se passe pas grand-chose.
Engourdi, c'est un très beau mot que vous avez utilisé pour parler de la Ravine. Est-ce qu'il y a un univers littéraire, une autrice, un auteur que vous avez l'intention de lire un jour? Quelque chose qui serait au loin là-bas?
Oui, il y en a tout plein. Là, j'essaie de lire des vivants. Et j'essaie de lire des gens qui écrivent autour de moi. Moi, je suis à Bienne et c'est une ville d'écrivains.
Des camarades, quoi.
C'est ça. Et ouais, à Bienne, c'est une ville d'écrivains. C'est une ville en Suisse où il y a l'Institut littéraire suisse qui regroupe beaucoup, beaucoup d'écrivains. Alors, j'ai envie de lire tous mes amis et tous mes proches. C'est un peu ça qui compte, je crois. Parce que du coup, c'est ça qui fait lien pour moi.
Et alors, qu'est-ce que ça fait de lire quelqu'un qu'on aime ou qu'on fréquente?
Moi, ça fait les aimer encore plus. je sais pas, c'est joli. Ça permet de lire d'autres facettes des gens qu'on connaît. Et j'aime bien, là, dans le Jura bernois, les gens qui écrivent quelque chose de très brut, notamment Jean-Pierre Rochat, qui écrit des trucs absolument formidables. Et pourtant, il parle de choses toutes petites. Et du coup, ça prend encore plus d'ampleur pour moi.
Daniel Bourion, est-ce que vous avez une œuvre littéraire au loin vers laquelle vous iriez un jour?
euh...
Pas de promesses, quoi.
Non. Moi, je laisse toutes les portes ouvertes. Et puis, j'attends de voir ce qui va arriver. Une œuvre littéraire...
Qui vous fait de l'œil.
Non, j'ai adoré Rabolio. Hein.
Il est super. Je vous ai entendu sourire.
Formidable, quoi. Non, parce que je...
Vous y allez quand
oui.
Vous...
Bah oui. Si j'ai envie, j'y vais. En plus que je travaille dans
souvent,
une bibliothèque.
Souvent, les gens me racontent ça mais en me disant, bah enfin, bah, si ça me fait de l'œil, j'y vais.
Oui. Et puis, comme je suis dans une bibliothèque, bah, c'est facile. Hein. Je vais dans les rayons. Normalement, ça y est. Sinon, mes collègues acquéreurs et acquéreuses, pardon. Je leur fais une suggestion et en général, elle n'est pas trop malvenue. Donc... Non, là, j'ai vraiment pas de nom.
Voilà, rien qui vous attendrait pour lequel vous ne seriez pas encore prêt.
Je suis prêt à tout, moi.
Ok.
Je suis prêt à tout lire.
On va parler de vos deux livres juste après ce morceau de Dominique A. Morceau très littéraire, comme souvent. C'est une chanson qui évoque le retour sur un lieu. Elle s'appelle Un corps de ferme, corps de ferme à l'abandon, qui donne donc son titre à cette chanson sortie en 2018 sur un album qui s'appelle Toute Latitude. Je cite quelques paroles. Ça pue le secret, la chair sous la contrainte, la perpétuation du mal, moisson d'éternité qu'il faut engranger vaille que vaille, et que ça pue faisait plaisir aux gosses que nous étions. C'était bien pour la peur, l'inquiétude, ce qui montait dans le grenier jusqu'à la maison du fermier, ça nous électrisait.
Je suis retourné haut, corps de ferme à l'abandon. Je suis entré dans l'étable noire, les poutres tenaient bon. Tenaient le plafond éventré, les planches d'avant-guerre, la première. Siècle des nuits, nuit des siècles, tout était si vieux ici, depuis toujours. Si haut les arbres en serrant la ferme, si fleuri le jardin au centre de la cour, encore fleuri, comme quand des gens vivaient ici. On écoutait Police, avec sur la pochette du 45 tours un type pendu, au-dessus d'un bloc de glace à demi fondu, l'humour à l'orée des 80s, le cynisme new wave. Comme une éruption hors cadre dans ces lieux sans âge, si vieux depuis toujours, confiné dans la nuit des siècles, la maison du fermier, le grand jardin clos, le grenier, le château, l'écurie, et les secrets par milliers répandus dans la cour, sans âge. Débordant de partout, affreux, congestionné. Quand je suis retourné au corps de ferme à l'abandon, la peur était intacte. Les lieux criaient pitié, et même en plein jour tout hurlait, et se jetait sur vous. Je suis sorti dans l'effroi de l'étable.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux premiers romans aujourd'hui dans votre Book Club, deux romans parus en cette rentrée littéraire et qui ont plusieurs choses en commun. Votre livre, Daniel Bourion, prend la forme d'une adresse à un ami. Après qu'il a été retrouvé mort à l'aube de sa cinquantaine, dans la plus grande solitude, le narrateur remonte comme il peut le temps pour récupérer un à un les souvenirs de ce petit garçon, puis ado, puis jeune homme, puis homme, en marge de tout ou presque. Une entreprise humaine et littéraire pour lutter contre le temps et l'effacement. Dans votre livre, Camille Lévra, une femme est tombée enceinte d'un viol. L'opprobre villageois tombe sur elle alors que l'embryon se développe dans son ventre. Des corps disparaissent là aussi et on emmène les vaches se faire traire en prononçant leur prénom jusqu'à ce que la jeune femme se réconcilie un peu avec l'idée d'accueillir l'enfant. Je parlais de points communs à vos deux textes. La ruralité en est un. Le hameau, le village, comme territoire et comme temps. On va y venir immédiatement avec un premier extrait de votre texte, Camille Lévra.
Encore une fois, la terre. Brune, grise, j'y plonge mes mains. Il a plu. Sous les ongles, elle se glisse et demeure. Elle noircit les doigts. Et jusqu'au coude, Elle piège les poils, les sculpte. Trop liquide à la surface, je m'y enfonce, loin, loin, profondément, et je la trouve enfin. Je la gratte, l'empoigne et la serre, la moule. J'ouvre alors mon poing et la regarde recroquevillée sur ma paume, effrayée d'être arrachée à des ténèbres. Je la frôle, l'effleure tout doucement. Je tourne au-dessus et sur elle, et elle devient ronde, creuse. Une coupe, un puits. J'enfonce les bords, les tire. La dent au centre, et je referme le poing. Je contracte, crispe fort, jusqu'à ce que mes doigts se crampent et tremblent. De l'autre main, je lisse son nid, tout au fond, et l'y étend. Soyons forts, soyons fortes. Puisse la nuit être douce. La nuit gobe, s'abreuve. Quand il m'a trouvé, le frère s'est glacé. Il a baissé les yeux sur moi et quelque chose a changé. Il a vu l'herbe arrachée, la terre sous mes ongles, les marques rouges et bleues à mon cou. Il a voulu crier, mais rien. Plus de force. Rien qu'un soupir étouffé. Les os de sa mâchoire ont claqué, son regard contre le mien. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, pour finir par se sceller. Le son est toujours là, mais ça ne vient plus. À présent, il ne parle plus. La voix tremble, coupe, bégaye. Les mots se heurtent à ses dents, se cabossent et retournent plongés dans sa gorge. Ils sont graves et geignent en résonnant dans les joues. Ils rebondissent contre le palais et grattent la langue. Je les vois frétiller contre ses lèvres, puis se résigner et partir. Maintenant, il dit les choses avec les yeux. Et ses yeux parlent beaucoup.
Un extrait de Rouille, Camille Evra, et ce paragraphe qui commence par ces mots, encore une fois la terre. En effet, la terre, on va la retrouver à différents endroits et on entend comme elle est presque labourée par votre écriture, comment vous faites aussi apparaître des espèces de passages entre la terre qui est grattée, qui est là, qui est aussi la terre agricole, et le corps de cette jeune fille qui se transforme en coupe, en puits. Mais c'est aussi une terre sur laquelle vous bâtissez votre fiction. Ce serait quoi comme terre? Ce serait quoi comme territoire?
Vous voulez dire comme lieu?
Oui, comme lieu.
Je pense que c'est un mélange de lieux que je connais. C'est pas loin d'une montagne. Et je ne saurais pas bien vous dire. Bah, c'est des lieux où il pleut, où il y a de la boue, où il y a de la glaise. Mmh. Et où j'ai passé parfois des moments de mon enfance qui sont restés gravés puis qui se modifient un peu dans mon histoire.
Il y a quelque chose de très organique. Là, on n'est pas tout à fait au début du roman, on est plutôt au milieu, on a bien avancé. Mais en fait, c'est quelque chose qui est là depuis le début du texte, mmh. Avec la grossesse, avec l'idée du viol, mais aussi avec l'idée de chacun et chacune avec cette terre. Est-ce que vous diriez que vous avez écrit un... Et même avec les mots, par exemple, dans la bouche du frère, c'est comme des éléments vivants. Est-ce que vous avez écrit comme ça? En tenant à ça?
Oui, oui. Bah, je pense que j'ai essayé de me donner vraiment de l'attention à tout. Cette terre, je crois que c'est un... C'est mon personnage qui essaye de refaire du lien à soi et à son corps. Et en mettant les mains dans la terre, elle retrouve ses mains. Mmh. Et c'est peut-être tout ce qui lui reste à ce moment-là. Mmh. Parce qu'elle est dépossédée complètement de son corps par les violences qu'elle a subies, puis par la grossesse. Et ces moments-là, je crois que c'est des moments de reconnexion un peu. De se retrouver soi et de créer quelque chose qu'on décide de créer. Quelque chose comme ça.
Il y a l'ambivalence, comme vous le dites, parce qu'à ce moment-là... Elle a aussi de la terre sous les ongles. Et la terre sous les ongles, c'est la preuve, avec les bleus sur son corps, mmh. qu'elle a été violentée. C'est la mmh. preuve de ce moment d'une ultime violence. Donc il y a vraiment l'ambivalence, de la même manière que vous parliez tout à l'heure des petits villages et des hameaux comme des endroits où les liens sont forts, mmh. où il y a des liens de proximité. Mais ça se retourne aussi beaucoup contre cette jeune femme, cette proximité et cette espèce de huis clos quand même.
Mmh. Oui, je crois que c'est... Elle est extrêmement seule, il n'y a personne. La seule personne qui est là pour elle, c'est son frère, mais il est complètement absent. Donc ouais, je crois que c'était un texte sur la solitude et sur l'après-violence. Mmh. Parce qu'on parle de la violence. Mmh. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait après. C'est là où c'est important. C'est là où on peut décider de se relever ou pas, parce que c'est pas toujours un choix d'ailleurs. Et c'est là où le corps, il apparaît, je crois, vraiment très fort, parce qu'il faut se le réapproprier, il faut comprendre et faire la paix avec. Et je crois que c'est ce que j'essaye d'écrire, je crois.
Oui, il y a un chemin très difficile, mais vers une forme d'apaisement, parce que vous redoublez dans votre livre, Camille Lévra, l'expérience de la très grande violence, de l'éruption de la violence dans le corps par le viol, mais qui est redoublée d'une grossesse. Donc ça rend le chemin peut-être doublement difficile, ambivalent. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette situation particulière, dans l'écriture ?
Je ne sais pas bien vous répondre. Vous pouvez me reformuler la question, s'il vous plaît.
Bah, ce que je veux dire, c'est que vous dites ce qui vous intéressait, c'était d'écrire sur le corps après la violence, oui. Mais vous redoublez l'expérience de cette très grande violence par le fait que cette femme est enceinte et que forcément, son chemin, il est quand même pris dans cette ambivalence.
Bah, je crois que c'est, ce qui m'intéresse, c'était d'écrire le corps. C'est ça qui venait d'abord. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte des traces que laisse un viol sur un corps. Mm-hmm. On se rend compte si on l'a vécu. Mm-hmm. Là, ça me permettait, au travers de cette histoire, de montrer la déformation du corps et la violence que c'est, cette déformation, quand c'est pas souhaité.
Et la déformation par la grossesse.
Tout à fait. Mm. Et en fait, le fait que c'est un viol qui ne s'arrête pas, à mes yeux. C'est un viol qui devient omniprésent pour le reste de sa vie. Mm. Et je trouvais intéressant, c'est un grand mot, mais je trouvais intéressant de parler du corps de cette façon-là, de parler de cette déformation-là et de voir qu'on peut aussi se relever de ça. Je voulais y mettre aussi de la douceur, se dire que c'est possible de retrouver de la tendresse, mais que c'est un chemin vraiment difficile, mais c'est ça que je voulais écrire.
D'autant qu'elle n'est pas totalement aidée, cette jeune femme. Elle est même empêchée. Elle trouve quelques ressources, notamment avec une figure que vous appelez la brûlée. Il y a quelques ressources. Mm-hmm. Peut-être la terre, c'est une ressource aussi pour elle, vous le disiez. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait dans son compagnonnage avec les corps des animaux et des vaches quelque chose qui était un chemin possible pour elle. Est-ce que vous pourriez en parler ?
Oui, je crois que c'est aussi les premiers morceaux de tendresse que j'ai mis dans ce texte. Mm. Au début, il n'y avait rien. J'ai dû rajouter de la lumière parce qu'il était trop sombre. Et c'est au travers des animaux que j'ai pu commencer à en mettre.
Ouais, on sent leur chaleur.
Ouais, c'est comme ça que ça commence. Avec un passage où mon personnage a envie d'avoir un chien. Et juste cette envie, je me disais, c'était une envie d'ouverture, quelque part. Et oui, d'abord les animaux et ensuite les éléments. L'eau qui est assez présente et le fait de se laver et tout le temps se laver le sexe. Et c'est quand même, ça revient régulièrement. Et je sais pas, ça permet de passer. Enfin, pour moi, c'était comme un passage à autre chose. Et c'était un geste de douceur de mon personnage.
Vers elle-même.
Ouais. Mmh.
Est-ce que vous avez toujours envisagé que ça devienne possible pour elle d'accueillir cet enfant ou ça s'est présenté à vous dans l'écriture ?
J'ai jamais su où ça allait.
Vous avez été étonnée que la maison qu'elle est puisse devenir quelque chose pour accueillir l'enfant.
Tout à fait. Aussi que les personnages des parents puissent s'adoucir alors que je les voulais très cruels. Et en fait, c'est contre moi qu'ils se sont adoucis.
Je reste sur la terre parce qu'il fait partie du titre que vous avez choisi pour votre texte, Daniel Bourion. Là aussi, il y a l'image de gratter la terre. Vous écrivez que votre narrateur fouille comme ça, mais plutôt, d'un seul coup, la terre devient la métaphore de la mémoire et du temps qui va creuser. Même question que je vous adresse, parce que c'est un des très forts traits d'union qu'on a trouvé entre vos deux textes, la présence de cette terre. C'est quoi la place que ça a pour vous dans ce texte, Daniel Bourion ?
Il n'y a que ça. Enfin, c'est quand on vient d'un village, Camille, c'est le cas aussi, il me semble, c'est il n'y a que de la terre, quoi. Et alors, les humains marchent dessus, mais ils vont aussi retourner dans la terre, donc qui devient un support de mémoire en tant que tel. Donc en fait, tout l'horizon, alors évidemment, il y a un horizon à l'horizon, mais votre principal horizon, c'est de la terre. Surtout si on est dans un milieu rural où le travail revient à la terre. Donc on travaille la terre tout le temps. Donc c'est juste un personnage, c'est le personnage principal. C'est vraiment le personnage principal. Donc il est là tout le temps, en permanence, et bien plus longtemps que les hommes qui passent dessus.
Oui, justement, j'allais vous dire, est-ce que elle n'est pas d'autant plus là, la Terre, dans votre texte, qu'on commence, et désolé pour l'image prosaïque, hein, par un corps en putréfaction, par un corps qui n'est pas que mort, il est aussi retrouvé tardivement, donc on imagine qu'il est abîmé dans sa mort, Daniel Bourion. Donc il y a quelque chose qui appelle la Terre aussi, qui va, à un moment donné, l'ensevelir et peut-être en finir avec cet état de corps qui est difficilement supportable. La Terre, elle est aussi celle-ci, non ?
Dans ce sens, elle répare, au sens où elle a la capacité de faire disparaître l'image de la mort qui est de la putréfaction. La Terre, une fois qu'elle a avalé un corps, ça devient, enfin, la Terre, c'est très beau, en fait. C'est très, très beau. Donc, y compris en mettant les mains dedans, enfin, c'est, la boue, c'est pas sale, c'est juste c'est de la terre liquide. Donc, oui, c'est aussi une force réparatrice, qui est très féminine en plus. Donc, ma foi, ça reste très cohérent, au sens où elle va... C'est un baume. Hein.
Oui, mais d'ailleurs, on sent que quand votre narrateur la fouille, c'est pas que pour la fouiller au sens de la déranger. C'est aussi, comme disait Camille Lévra, on voyait bien ce geste-là de la glaise. D'ailleurs, vous utilisiez même le mot glaise, qui a plus de liant. C'est que c'est presque comme la terre de l'argile qu'on peut mettre sur une plaie, qu'on peut mettre sur une brûlure.
Oui, donc qui a ce côté de capacité de guérir, et qui est aussi... Enfin, c'est un vrai plaisir de mettre les mains dedans, quoi. À tous les sens du terme.
Justement, Marie-Josée, notre auditrice, vous interroge sur la manière dont vous avez mis les mains dedans, dans la langue, dans le texte, peut-être pour trouver la voie de ce texte, Le pays dont tu as marché la terre.
Bonjour, le Book Club. Bonjour, Daniel Bourion. J'ai lu votre livre et j'ai été bouleversée par l'histoire de cet homme mort à 49 ans, tout seul, dans une maison en ruine, à la campagne. Je ne vous cache pas que votre écriture m'a intriguée au début, car vous brouillez parfois les tournures grammaticales usuelles. Mais très vite, je suis rentrée dans votre langue inventée, qui m'a épatée, je dois le dire. J'ai aimé relire des phrases qui flirtent avec la poésie. J'ai aussi apprécié votre humour au milieu de cette tragique histoire. Comment êtes-vous arrivé à 128 pages ? Avez-vous beaucoup raturé votre texte ? Merci pour votre réponse.
Ben merci à vous, Marie-Josée, d'autant articuler votre pensée pour dire l'expérience qu'a été votre lecture du texte de Daniel Bourion. Alors, comment êtes-vous arrivé à 128 pages ? Ça, c'est déjà une bonne question. Comment avez-vous trouvé cette langue dont Marie-Josée dit qu'elle a été surprenante pour elle ?
Alors, comment je suis arrivé à 128 pages ? J'ai pris la première et puis j'ai écrit jusqu'au 128. Donc, c'est très simple. C'est quasiment un premier jet.
Donc pas du tout, comme pouvait le supposer Marie-Josée, l'idée d'un tamisage, non. D'une coupe, d'une réduction.
Alors si, il y a un premier jet, ensuite j'enlève. C'est-à-dire j'enlève ce qui est trop. J'aime bien les choses très concentrées. Je trouve que plus on enlève, plus on approche de l'os. Et l'os, c'est de la poésie. Donc il y a une phase comme ça, mais qui consiste pas... Il n'y a pas d'expansion du texte. C'est vraiment de la réduction. Donc c'est une méthode complètement basique, mais il y a un premier jet, puis on enlève tout ce qui est en trop. Quand ça résiste, on est à l'os, je m'arrête. Parce qu'après, il n'y a plus de texte, donc ça ne sert plus à rien.
Et sur la langue et la structure, en effet ?
Alors moi, le français n'est pas ma langue maternelle. J'ai appris le français à l'école, à l'âge de 3 ans à la maternelle. Donc ma langue maternelle, c'est le plat, qui est un patois germanique lorrain. Que j'ai complètement oublié, puisqu'à l'école, on nous a demandé de l'oublier.
Avec les patois.
Voilà. Et donc, quand je suis dans mes fonctions professionnelles, j'ai une écriture très classique française, on ne peut plus classique parce que je suis un élève appliqué et je fais ce qu'on me demande de faire. Donc, j'écris un français le plus classique possible. Dès que je rentre dans la fiction ou dans de la poésie, dès qu'on est dans de l'écriture créative, on va dire, il se passe un drôle de phénomène qui est que je pense que les structures de l'allemand reviennent dans perturber ou corroder, puisqu'on parle de rouille avec le titre de Camille. Voilà, il y a un travail de corrosion, mais au sens positif du terme, qui fait apparaître des motifs.
Mais que vous ne cherchez pas, donc vous faites l'hypothèse que ça revient du bain de langage dans lequel vous avez grandi, Daniel Bourion, qui était ce patois.
Oui, il n'y a pas de travail réfléchi. C'est vraiment une espèce de prise en otage, c'est pas un terme positif. Mais...
Que vous seriez, vous, oui, comme pris par cette langue-là.
La langue, les restes, quoi. Ma langue passée prend les commandes, en fait. Mmh. Et moi, je laisse faire, puisque finalement, c'est assez confortable. Ouais. Et c'est intéressant de voir où ça va arriver, puisqu'il y a quand même aussi un jeu de jusqu'où la langue française va résister à la torsion qu'on peut lui appliquer.
Dans sa lisibilité, vous voulez dire.
Oui, dans sa lisibilité. Et jusqu'où on peut la pousser. Quelles sont les limites de la langue française? Alors, je m'arrête juste avant que ça devienne complètement incompréhensible. Sinon, on est dans autre chose. Mais voilà, c'est pas un travail que je fais en me disant...
Je vais expérimenter.
Non, c'est la langue elle-même qui expérimente ce qu'elle peut faire. C'est plutôt comme ça que je dirais.
On écoute un extrait de votre texte « Le pays dont tu as marché la terre », sous la forme de cette adresse que vous choisissez depuis le début du roman. Adresse à cet ami, découvert mort, un tout petit peu avant sa cinquantaine.
J'étais passée une fois. Tu avais laissé les clés sur le contact, évidemment. J'ai hésité à franchir la grille pour te dire bonjour. J'ai reculé, poursuivi ma promenade, complété le tour des collines par le chemin qui tient leur haut. Je ne savais que dire devant la tombe familiale où sans doute tu étais arrêté, à moins que tu ne sois dans la chapelle. Je sais qu'on est toujours seul dans la mort. C'est un regret de n'avoir pas parcouru quelques mètres pour basculer par-dessus le temps écoulé. Ensuite, tu roulais au conteneur tout proche, les bouteilles vides, tu ouvrais le haillon de maison de poupée de ta voiture, tu jetais les cadavres inutiles, le bruit que ça faisait. La vidange faite, tu repartais parfumant l'air de l'odeur de l'essence. Et puis, tu n'es même plus venu voir tes morts. Lentement, ton horizon a déteint sur tes murs. Je n'ai que peu de peine à peindre cette solitude. Je peux parfaitement me la représenter. C'est tienne routine, manger, dormir, boire, fumer. Attendre la suite qui était très exactement la même histoire. Je sais ce qu'elles peuvent être. Lentement, sans même y prêter garde, on voit le temps se brouiller totalement. Même les morts qui ne servent plus, on finit par les oublier, jusqu'à atteindre le dernier.
Un extrait de votre texte, Daniel Bourion. Si je ne me trompe pas, il y a un lapsus dans la lecture de Jeanne Aléos qui est même les morts plutôt que même les mots. Mais c'est parfait, c'est parfait ce lapsus parce qu'il y a quelque chose de très puissant entre ces mots qui ne servent plus, que ne prononce même plus cet ami d'enfance, et les morts aussi. C'est-à-dire cet ami est mort, mais là, lui, il va même plus voir ses morts. Donc ça ne sert même plus, il n'y a même plus le lien avec ça. On entend dans cette page qui arrive plutôt à la fin de votre roman, l'idée d'un regret, l'idée de ne pas avoir passé, basculé par-dessus le temps écoulé, est-ce que vous diriez que ce texte, il pourrait venir d'une forme de sentiment un peu de cette tête-là ?
Il y a peut-être un tout petit peu de regret du narrateur qui peut à un moment se dire « Peut-être que j'aurais pu faire le simple fait de rentrer dans le cimetière pour discuter avec cet ami ». Après, on ne peut pas passer sa vie sur ses regrets. Enfin,
c'est vraiment pas une bonne idée.
Ça ne sert à pas grand-chose, à part s'empêcher soi-même d'avancer. En tout cas, non, ce n'est pas un texte de regret, ce n'est pas un roman de regret, c'est un roman de constat. Mm. C'est un roman de constat de...
De quel constat, alors ?
Mais de certaines existences qui, en fait, sont plus nombreuses que je le pensais par rapport au retour que je peux avoir sur le livre, de personnes qui s'effacent complètement... de la société, de leur propre vie, et qui finissent par s'évaporer complètement, malgré tous les dispositifs d'aide sociale qu'il peut y avoir en place. Il y a quand même des personnes qui y échappent. Alors ça peut être un échappement volontaire, après tout, on a le droit de choisir de disparaître, ou un échappement involontaire, dû au fait que les dispositifs mis en place n'ont pas suffi, ou n'ont pas su récupérer... les personnes comme ça qui disparaissent. Donc voilà, c'est plutôt un livre de constat.
Quand vous dites qu'ils disparaissent, Daniel Bourion, même s'il y a vraiment la question de la disparition au sens de l'effacement des vies que vous rattrapez par les mots, il faut comprendre que c'est l'idée de disparaître à sa propre existence, de lâcher l'affaire en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment, on suit, le narrateur recompose une vie comme il peut, avec le matériel de mémoire qu'il a. Et on suit quelqu'un qui lâche la rampe de ce que ça pourrait être pour lui de vivre et qui finit par ne plus vivre avant même de mourir, on pourrait dire.
Tout à fait. Oui, c'est une vie qui rentre dans la mort de son vivant. Mm. Donc c'est vraiment un parcours assez commun, en fait, je leur dis, mais de gens qui... Vous dites ça parfaitement, de gens qui lâchent l'affaire. Mm. Lâcher l'affaire de la vie, c'est quand même pas rien, quoi.
C'est plus courant qu'on ne le croit.
Oui, oui, et en plus, c'est très courant. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. À quel moment, dans le processus d'une personne, cette personne décide de lâcher l'affaire et de disparaître et de s'auto-effacer? C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Alors, j'ai absolument aucune réponse.
C'est ce que j'allais dire. On n'a pas l'impression que votre livre nous permettrait de comprendre complètement. On peut faire des hypothèses, vous remontez à l'enfance, vous montrez des moments où, en effet, ça a décroché avec l'école, ça a décroché avec les copains, ça a décroché avec le village, ça a décroché avec la maison, ça a décroché en venir. Mais pour autant, ce ne serait pas un rouleau compresseur de cause à conséquence qui ne mènerait qu'à ça. On sent bien que vous êtes plus ambivalent que ça, ou votre narrateur est plus ambivalent que ça.
Mais déjà, je ne pense pas qu'il y ait de réponse simple à des situations aussi complexes que ça. Et je ne pense pas qu'il y ait de réponse simple à une situation aussi complexe que la vie.
Voilà.
Une fois qu'on a posé ça... Non, mais c'est un peu facile d'apporter des solutions. S'il y avait des solutions, elles seraient appliquées sans doute et on n'en serait pas là. Du coup, j'ai perdu le fil.
Mais c'est pas grave, moi je vais garder ce fil. Je vous parlais de la maison sur laquelle j'avais envie de revenir. C'est un motif qu'on a trouvé entre vos deux textes, Daniel Bourion et Camille Lévra. La maison, ce serait la maison qui abrite ce corps mort retrouvé de cet ami d'enfance. Si on essaye d'en faire une forme de métaphore, on a essayé de travailler ça avec l'idée de la terre, ça aurait quoi comme place dans votre texte, ce motif de la maison?
Bah, c'est une maison qui ne remplit plus sa fonction d'abri. Oui, complètement. Donc, et qui s'effondre en même temps que son contenu, j'allais dire. C'est le contenant qui s'effondre en même temps que le contenu.
Le contenu étant l'être.
Ouais, oui, exactement. Donc c'est assez fascinant d'ailleurs de constater cette similarité de parcours. C'est-à-dire l'être se défait, sa maison se défait. Et on arrive comme ça à quelque chose qui est crépusculaire. Je reviens à ce que je disais au tout début, hein. C'est des fins crépusculaires, en fait.
Camille Lévra, il y a aussi des maisons, jusqu'à une maison réconciliée ou une possibilité de maison à la fin, qui serait le corps de cette femme et la possibilité de nourrir son enfant. Vous, ça a eu quoi comme place dans l'élaboration de votre texte, ce mot-là, la maison, ou cette image-là?
Ah, ça a beaucoup de place. Je crois même que c'est le dernier mot de mon texte. Oui, ça a eu beaucoup de place parce qu'on commence le texte dans une maison qui n'est plus un refuge non plus, qui rejette complètement ma narratrice et dans laquelle elle vit une solitude terrible. C'est peut-être là où elle vit le plus de douleur parce que c'est là où elle est rejetée complètement par les siens.
Parce qu'elle a été violée, ce qui est quand même
parce qu'elle a été violée,
la double violence, ouais.
Et surtout parce qu'elle est enceinte et que donc il y a des traces de ça. Et son corps devient, au sein du texte, une maison, mais surtout elle vise à vivre dans une maison, dans le village, avec d'autres femmes qui la protégeront. Et donc c'est essayer de retrouver un refuge. Et je pense que c'est ça qui permet aussi à ma narratrice de faire la paix, c'est qu'elle peut retrouver une zone de sécurité et donc peut-être...
En devenir une, elle aussi, à
elle
son
aussi,
tour.
Oui. Ouais. Pouvoir vivre en sécurité et donc offrir une sécurité aussi à son enfant.
C'est une maison que vous imaginez où, en effet, converge la vie de plusieurs femmes. Mm-hmm. Des femmes qui vont, chacune à leur manière, prendre soin de cette jeune fille si abîmée et et tellement en difficulté à ce moment-là dans son parcours. Là encore, c'est un motif... comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Est-ce que là aussi vous êtes fait surprendre ou ça faisait partie des choses que vous souhaitiez écrire?
Mais je savais rien du tout pour ce texte. Je me suis fait complètement mener en bateau. J'ai la première scène que j'avais écrite et ensuite je me suis fait mener en bateau. Mais je crois que c'était aussi une possibilité d'ouverture, de trouver quelque chose d'un peu réconfortant pour mon personnage et de trouver des personnages qui lui ressemblent, qui ont des vécus similaires, plus ou moins similaires, dans le fait d'être rejetée et d'être une femme. Et de décider de fonctionner quand même, et de fonctionner toute seule, ou alors toute seule mais à plusieurs. Et je crois que c'était un peu ça qui comptait.
On va écouter une archive de Claude Simon. Vous évoquiez tout à l'heure, Daniel Bourion, le choc qu'a été la route des Flandres. Il parle en 1976 de la production, et il insiste sur ce mot-là, d'un sens pluriel.
Le travail de l'écrivain tel que je le conçois, c'est-à-dire essentiellement basé sur une combinatoire, il nous faudra aussi revenir là-dessus si vous voulez, il aboutit à la production et non pas à l'expression, c'est très important, à la production de sens pluriel dont aucun n'est explicité. L'écrivain dit le monde, il dit des choses, ou plutôt il dit un monde et il dit des choses. Il ne les explique pas. L'aboutissement de son travail, c'est essentiellement une mise en question.
Avril 1976, la voix de Claude Simon, dire des choses, dire un monde, construire un sens, produire un sens pluriel, mais peut-être ne pas tout expliciter. Camille Lévra, il y a quelque chose en effet dans votre texte qui avance sur la pointe des pieds, du côté du sens, du côté aussi des, on va dire, des ressorts de l'intrigue, c'est pas spécialement transparent. Claude Simon termine en disant, ça pourrait aboutir le travail d'écriture à une mise en question, est-ce que ça vous parle ?
Oui, assez quand même. Oui, moi je crois que le flou est central dans ma façon d'écrire. Je crois que ben d'abord j'écris pas beaucoup, puis ensuite j'enlève beaucoup. Du coup il y a plus grand chose qui reste et je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on garde que des instants et des émotions, mais qu'on sache pas trop où on va. Ça permet de s'ancrer un peu n'importe où et chez n'importe qui.
Et je reviens à ce que vous disiez d'un texte aimé lorsque vous en parliez comme d'un texte engourdi. J'ai presque l'impression de voir des paysages neigeux dans lesquels on ne distingue plus tout à fait les choses. J'écris peu, je retire beaucoup, il ne reste pas grand-chose. Donc ça, c'est la bonne méthode pour arriver à cet engourdissement, à ce...
Mais je crois, Daniel parlait avant de quelque chose de désossé, et c'est aussi un terme que j'utilise quand je parle de ma façon d'écrire. C'est qu'il ne doit pas rester grand-chose à la fin, mais juste suffisamment pour qu'on comprenne, juste suffisamment pour que ça résonne. Mais je trouve qu'il faut des zones invisibles, comme ça peut être pour n'importe qui. Il ne faut pas que j'en donne trop.
Daniel Bourion, cette archive de Claude Simon, la production d'un sens pluriel, mais pas tout explicité, ça vous parle ?
Ah ben, complètement. Enfin,
chez vous aussi, il y a dans ce texte-là.
Ben, c'est-à-dire, si vous dites tout dans un livre, il n'y a plus d'intérêt à le lire, puisque tout est dit. Moi, je pense quand même qu'un livre doit déclencher chez le lecteur tout un travail de réflexion et de production d'un sens. Et ça suppose que le sens dans le livre reste ouvert. Sinon, si vous avez tout dit dans le livre, on ne peut plus produire de sens puisque tout est dit dans le livre.
Mais ouvert au sens que le sens est incomplet,
oui.
ou qu'il est pluriel. Enfin, c'est peut-être pareil.
Alors, c'est les deux. Hein. Ouais. Enfin, c'est la même. Pour qu'il soit pluriel, il faut qu'il soit incomplet et que chaque lecteur ou lectrice apporte un complément de sens. Pour moi, c'est un livre, c'est un puzzle. Et une des pièces, c'est le lecteur ou la lectrice. C'est la lecture qui va en faire.
D'ailleurs, le puzzle est une image utilisée par votre narrateur.
Oui, complètement. Oui, mais parce que le narrateur, il essaie de reconstruire un personnage. Et le résultat, c'est que la pièce manquante, en fait, c'est la silhouette du personnage qui alors, paradoxalement, n'est pas là et qui est définie par tout ce qui l'entoure. Donc, on est presque... je me rends compte qu'on est presque dans une mise en abîme. La figure du puzzle, c'est aussi le roman.
On en revient à cette phrase que je citais en introduction de l'émission, « Les morts ne comprennent rien, le rien les occupe totalement », et à vous écouter à l'instant, finalement, c'est en refabriquant l'environnement autour de la silhouette, mais par le creux,
oui,
par le vide que vous faites apparaître cet ami d'enfance.
C'est un pochoir, en fait, le roman, c'est un pochoir. Et c'est une fois que vous avez... je dessine les contours, le lecteur va projeter quelque chose, qu'il projette, c'est le personnage qui est absent, mais qui a été généré par, par la lecture.
Donc bizarrement, vous produisez un vide dans ce texte-là,
le lecteur
mais
va
ce
remplir.
Vide, il est signifiant.
Exactement.
Par notre travail et par tout ce que vous avez chargé dans ce vide, quoi, d'électricité.
C'est pas moi qui travaille, c'est le lecteur. Moi, je donne juste la forme, comme un gâteau, hein. Je donne la forme, enfin, je donne le moule, et après, c'est à chacun de produire son propre personnage. D'ailleurs, si on pouvait rentrer dans nos têtes, je pense que chaque lecture a généré son propre personnage.
Et son propre ami d'enfance.
Et son propre ami d'enfance.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et comme chaque mardi arrive le moment au Book Club de s'intéresser à la littérature jeunesse, c'est vous, Raphaël Bott, qui allez nous en parler cette semaine. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marie.
Ravie de vous retrouver à ce micro. Vous êtes journaliste, vous suivez ce domaine littéraire depuis plusieurs années. On part maintenant en Norvège grâce à un roman intitulé Oscar et moi, Oscar avec un K, et Tous nos petits endroits de Maria Parr.
J'ai découvert cette autrice jeunesse, donc cette fameuse Maria Parr, il y a quelques années déjà, avec deux romans au titre assez singulier, Cascade et gaufre à gogo, le premier, et Foot et radeau à gogo, le deuxième. Et puis là, il y a ce petit nouveau qui est sorti en France il y a quelques semaines. Alors bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ayant la lourde tâche de lire beaucoup de livres pour les enfants et les adolescents, eh bien j'endosse aussi le rôle de la tante sympa qui rapporte des tas d'albums, de BD, de romans. Et même si je me retrouve parfois en concurrence avec Zelda et son monde, j'ai aussi régulièrement la satisfaction de passer de longues heures à lire un roman à voix haute. Oscar et moi et tous nos petits endroits a d'abord complètement convaincu et charmé la journaliste que je suis, avec des critères d'adulte, mais il m'a ensuite offert une ultime victoire. J'ai entendu on arrête la Switch, mais tu nous lis la suite du livre. Et c'est véridique, Marie.
Et au moment où sortent des tas d'études signées par le CNL et consorts de la concurrence terrible qui règne entre le temps d'attention consacré aux écrans, et le temps d'attention consacré aux livres, il y a un très grand enjeu, on veut en savoir plus.
Ah, et ben côté intrigue, déjà, il n'y a pas de dragon, il n'y a aucune simulation jeu vidéo. Il y a juste une fille de 8 ans et un frère de 5. Ida dort sur le lit du haut, Oscar celui du bas. On suit leur quotidien dans une maison rouge, un peu branlante, en haut de la colline d'un village norvégien. Une vie dans laquelle un petit garçon rêve d'avoir un trampoline, où on s'endort en entendant le bruit du torrent, où un oncle chéri est en train de mourir, où une maman partage ses propres souvenirs d'enfance avec ce frère. Où on retrouve une vieille cabane de l'an dernier et qui semble désormais ridicule, où l'on rêve d'avoir sa propre chambre, mais où on fait moins la maline quand on s'y retrouve toute seule. Enfin bref, une vie où on grandit.
Et une chronique familiale en quelque sorte, mais à vous entendre, c'est aussi un roman qui a une saveur particulière.
Eh ben moi j'ai trouvé qu'il atteignait un équilibre fragile et finalement assez rare en réalité. Il est réconfortant, il est drôle, il laisse aussi la place aux imperfections de l'existence, mais surtout il ne tombe jamais dans une espèce de fausse naïveté enfantine. Ben oui, il y a des petites histoires de vomi, vous verrez, dans le couloir. Il y a même du caca d'étoiles, c'est vous dire. Mais on sent jamais l'adulte qui cherche à séduire l'enfant avec une blague facile, voire un peu démago. Maria Parr, elle a une tendresse pour ses personnages, enfants comme adultes. Elle les respecte, elle les utilise pas pour fabriquer artificiellement le fou rire de son lecteur. Et l'esprit d'enfance, vraiment avec un grand E, lui, il est bien là.
Maria Parr, elle est norvégienne, elle est assez connue dans son pays, un petit peu moins chez nous. Moi, j'avoue que je la découvre. C'est l'occasion de vraiment découvrir toute une littérature ou un pan de littérature venu d'ailleurs, Raphaël ?
Ben, c'est aussi là que je voulais en venir, je voulais en profiter pour parler de ça, parce que c'est vrai que si les rayonnages en jeunesse regorgent de traductions anglo-saxonnes, dont d'excellents titres, ça c'est pas la question, et puis on aime beaucoup saluer nos plumes françaises, ben, ça me semble aussi intéressant d'évoquer cette diversité et tout ce travail d'éditeur qui permet d'avoir en France des romans jeunesse traduits du néerlandais, je pense par exemple à un auteur comme Edward van de Vendel, un autre par exemple de l'italien avec ceux du génialissime Davide Morosinotto, et puis là du norvégien avec ce titre traduit en français par Aude Pasquier. Elle, c'est une spécialiste des langues scandinaves, et finalement en littérature jeunesse, on parle pas souvent de cet aspect et de l'enjeu de la traduction à l'heure où justement les intelligences artificielles rôdent. Par exemple, Aude Pasquier, elle explique combien ça lui semble important de faire sentir la patte norvégienne aux enfants dans son approche. Elle veille à ne pas polir la langue pour la glisser dans notre moule, et elle tient à respecter certaines répétitions qui sont courantes en norvégien, quitte à sembler un peu dissonantes en français. Elle vise un équilibre qui permet d'entendre ces différences. Travailler la lisibilité pour des jeunes lecteurs, ça passe pas forcément par la standardisation. Et elle a décidé de ne pas chercher un équivalent, par exemple, du bouc de Noël, qui est visiblement une tradition en Norvège. Les enfants, ils mangent des tartines de pâté de foie et pas des sandwichs au jambon. Et on peut même s'étonner, nous, en tant qu'adultes français, qui passent quand même beaucoup de temps, à leur si jeune âge, dans le village, tout seul, sous la pluie. Et c'est l'écriture de Maria Parr, elle est aussi travaillée pour une lecture à voix haute, avec le rythme, avec la construction des chapitres. Et cette traductrice a fait de même avec le français, sans jamais affadir, en respectant toujours le ton, la voix, les jeux de mots. Et ce travail de traduction-là, il est artisanal et il est précieux.
Ouais, on va lire ça dès 8 ans, à voix haute et ou en solitaire. On fera bien quand on voudra, comme on voudra. Ce sera pendant les vacances, par exemple. C'est signé Maria Parr. C'est traduit du néo-norvégien par Aude Pasquier. Vous venez de le dire, Raphaël Bott. Le livre est édité chez Thierry Magnier. Et on retrouve toutes ces belles références grâce à vous sur le site du Book Club. Merci, Raphaël. À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue à un grand jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On propose à nos auditeurs, aux lectrices, lecteurs, et puis aussi à nous, de chercher de la musique dans les textes. On en a cherché chez vous, chez vos deux textes, Camille Lévra et Daniel Bourion. Nous n'en avons pas trouvé. On a pas mal cherché.
Je crois pas, non.
Pas de musique chez vous, Camille Lévra?
Non plus.
Pas de musique chez vous, Daniel Bourion. Donc, on s'est référé à Aurélie, auditrice du Book Club, qui nous a envoyé via le mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com, un extrait d'un texte de Fabrice Caro qui s'appelle « Fort à l'amour », qui a paru en 2024 aux éditions Gallimard. Nous avons fait le tour pour vérifier que nous n'avions rien oublié. Laurent s'évertuait à dresser l'inventaire des pièces à haute voix pour combler le silence. Nous sommes sortis de la maison et il est allé refermer la porte arrière du fourgon Super U que nous avions loué pour la journée. J'ai pris mon courage à deux mains pour lui demander s'il voulait bien me laisser arpenter la maison une dernière fois tout seul. Il a très bien compris. J'ai déambulé un moment dans les pièces aussi vides que je l'étais moi-même. Je suis ressortie. Laurent était appuyé contre le fourgon et manipulait vaguement son téléphone. Il a levé la tête, il avait les yeux rouges. Il a souri, il a dit « bon ben voilà quoi ». Bon ben voilà quoi. Tout était dit. Que dire de plus? Ces quelques mots pouvaient résumer une vie. En montant dans le fourgon, il m'a proposé de venir prendre un verre chez lui. Corinne a fait des crêpes. Nous venions de vider la maison familiale, celle qui nous avait vu grandir. Dans quelques semaines, des âmes inconnues viendraient investir les lieux, les souiller de leur intimité étrangère, imprimer des rires qui n'avaient rien à faire ici, et lui me proposait de manger des crêpes. Il a mis le contact, la radio s'est enclenchée. The winner takes it all, a jailli des enceintes. The winner takes it all, the loser has to fall.
Nous avons joué notre vie ensemble, et puis un beau jour, la chance a tourné. On ne finira pas la partie ensemble, et chacun s'en va seul de son côté. The winner takes it all, the loser has to fall. Beside the victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there, figured it made sense. Building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice.
Merci beaucoup Camille Lévra d'être venue nous parler de Rouille, paru aux éditions La Veilleuse. Merci Daniel Bourion d'être venue nous parler de Le Pays dont tu as marché la terre, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Au son, aujourd'hui, c'était Nicolas Leroulet, à la réalisation Sam Bakiast. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Garance Roubieux, Cyril Marchand, qui a eu l'idée de vous réunir, Léa Weiss-Grus et Alexandra Laibegovic, qui animent la conversation sur le compte Instagram du Book Club.